Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Je suis évidemment accompagné de Rémi. Salut Rémi, comment vas-tu ?
Yo tout le monde, bah écoute, ça va là, tranquille, on enchaîne sur le second tour. Tout se passe à merveille.
Tout se passe à merveille, sauf
mon bracket.
Ouais, sauf ton bracket et sauf les Clippers, on peut dire ça comme ça.
Ouais, les Clippers, ouais, ça pue, hein, putain. T'avais raison, non, j'ai bien vu du coup Dallas 4-2. Bah ouais, raison du coup que le Game 5 était décisif, la preuve.
Ouais, mais c'était, en vrai c'était quand même une belle série, on en parlera évidemment dans une prochaine émission, puisque dans celle-ci nous allons nous occuper de la fin du premier tour à l'Est, et évidemment des previews pour ces demi-finales de conf qui m'ont l'air fort intéressantes. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Eh bien, on commence tout de suite par les Celtics qui ont gentleman sweep le Heat. C'était un résultat qu'on s'attendait finalement. Un match 5 géré de la part des Celtics, en l'absence malgré tout de Porzingis. Mais en fait, c'était qu'une promenade de santé. C'était plus ou moins ce qu'on avait vu venir de toute façon au vu de la série. L'absence de Butler qui a été évidemment déterminante.
C'était crucial hein, pour le Heat. Ça leur a fait très très mal.
C'est ça.
Louis a réussi à en prendre une parce qu'il y a eu un sursaut d'adresse sur un match.
Voilà, c'est ça.
Mais sinon, la meilleure équipe a gagné dans le meilleur chemin possible, en fait.
Effectivement. Bah, en vrai, on ne va pas trop s'attarder sur cette série parce que du coup, plutôt à sens unique. De l'autre côté du tableau, ce sont les Cavs qui rejoignent les Celtics en demi-finale. Puisque les Cavs, même s'ils se sont fait peur, se sont imposés 4-3 dans un Game 7 ce dimanche soir. Parle-moi un peu de cette fin de série, si tu as évidemment tout suivi.
Magnifique série. Du coup, ça va en 7 matchs. Ça s'est répondu. En fait, c'est celui qui est à domicile, il gagne. Tout simplement. Donc, magnifique série. Orlando qui s'incline. Donc, certains sont un peu tristes. Normal, parce que... Pour être arrivé là avec la saison régulière, on s'attendait à toujours plus, forcément. Mais déjà, le parcours est magnifique. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient cinquième en saison régulière. Ils ont réussi à faire la saison qu'il fallait. Et surtout, ils perdent avec les honneurs. Ils ne perdent pas de manière un peu ridicule. Magnifique série. Gros match, enfin, grosse série défensive, parce qu'on était vraiment sur deux grosses défenses.
Ouais.
Et surtout, on a un Paolo Banchero côté Orlando qui nous a montré ce qu'il peut donner en play-off. Et ça donne beaucoup de... D'espoir pour la suite, ouais, clairement. Le bonhomme tourne en 27 points, 8 rebonds, 4 passes sur la série. Il n'a rien à envier à Donovan Mitchell. Hein. Enfin,
c'est clair.
Les stats sont quasiment similaires. Non, c'est très, très,
c'est clair.
Très, très
bon. Après, moi, ce qui m'a fait plaisir, notamment sur le Game 7 de dimanche, c'est que déjà, un vrai Game 7, parce que du coup, l'adresse n'est pas forcément présente sur le match.
Ouais, non, c'est
faut vendre sa mère pour mettre un tir. Faut vendre sa mère pour mettre un tir. En plus, Orlando commence très fort le match et là on se dit ils vont pas le faire de gagner à Cleveland. Et en fait, Cleveland revient dans le troisième quart et prend une avance un peu définitive malgré, comme tu l'as dit, un Banchero des grands soirs. Sur ce match-là, il tourne à 38 points, 16 rebonds avec 3 interceptions. Et des pourcentages au tir un peu compliqués, mais ça c'était pour tout le monde au final.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, vu qu'il y a deux grosses défenses de deux côtés, les pourcentages peuvent pas être très bons, mais derrière ça se bat pour pouvoir rentrer les shoots, pour aller chercher les lancers, pour aller faire les différences.
C'est ça. Et puis en fait, ce qui a été intéressant pour Cleveland, c'est de voir comment ils ont pu gérer sans Jarrett Allen sur ce match 7. Et Evan Mobley a fait le taf, 11 points, 16 rebonds. Donovan Mitchell a été important, même s'il a commencé le match de manière assez compliquée. Bien suppléé aussi par Caris LeVert en sortie de banc avec 15 points.
Caris LeVert, c'est son seul vrai bon match sur la série d'ailleurs, et qui a entre guillemets sauvé les Cavs au bon moment. Quoi.
Ah bah oui, parce que quand il prend son coup de chaud, il me semble que c'est fin de troisième pour reprendre l'avantage et passer à mettre un petit écart. Il a été hyper intéressant et même défensivement, il s'est battu aussi.
Ça a été
plutôt bien. Et Orlando à bout de course. Jalen Suggs a même apporté, mais pas assez. Difficile au lui. C'est une soirée difficile pour lui au tir. Il me semble qu'il est dans un triste 2 sur 10 à 3 points.
Ouais.
Mais Orlando a été trop court sur ce match 7. Le fait de jouer à l'extérieur a pu jouer parce que du coup, ça reste une équipe jeune qui en manque d'expérience sur ce genre d'événement. Parce que du coup, c'est les premières fois qu'ils vont en playoff, donc c'est compliqué. Mais du coup, c'était une série très intéressante. Et Cleveland, du coup, qui va affronter les Celtics. Qu'est-ce que tu vois un peu dans cette série?
Pour être tout à fait honnête, j'ai un peu peur pour Cleveland parce que Boston nous ont montré que l'équipe est vraiment très très forte. Et j'ai du mal à... Je vais donner mon pronostic en fait direct parce que ça va avec. J'ai un peu du mal à voir Cleveland trop voir le jour face à Boston parce que défensivement, offensivement, en termes d'expérience et tout, en fait, Boston, ils sont bien meilleurs qu'Orlando à tout point de vue. Hein. Je veux pas manquer de respect à Orlando, mais c'est normal, ils sont jeunes et tout. Et du coup, ça va être très très compliqué pour Cleveland. Donc, ça va être à eux de batailler pour montrer qu'ils existent, quoi.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va falloir commencer très dur. Et parce qu'en fait, arriver à 2-0 déjà, peut-être quand tu retournes à Cleveland, et ça pourrait déjà être la fin pour les Cavs. Donc, ça me paraît un peu compliqué malgré tout. Jarrett Allen, il me semble, va louper le début de la série. Porzingis sera de retour par contre.
C'est donc, sûr qu'il est de retour parce que là pour le moment il est en day-to-day.
Moi j'ai l'impression que c'est écrit avec Porzingis sur le Game One. Hein.
Ok.
De ce que j'ai vu.
Ok. Parce que pour le coup ça va être un peu un poste primordial là. On a.
Ah bah le, sur coup, le poste
on,
5, ouais.
On a un gros laiton de 2m20 côté vert et on a deux énormes big men de 2m15 côté rouge. Donc,
ouais.
Donc le combat dans la raquette va être un combat. Très intéressant sur cette série.
C'est clair. Et c'est peut-être là où les Celtics peuvent faire la différence. Parce que du coup, si tu n'as pas de Jarrett Allen, en fait, il suffit que tu mettes Porzingis et pourquoi pas que tu alignes un deuxième grand à côté pour embêter tout de suite la raquette des Cavs.
Tu peux mettre un Tatum directement au poste 4.
Hein. Un Tatum, ou même si c'est bête, mais si tu mets un Horford, ça peut être embêtant aussi. Faire un 5 assez grand avec Jrue Holiday, Brown, Tatum en 3... Ouais. Horford et Porzingis, en fait, en l'absence de Jarrett Allen, t'as plus personne pour défendre sur les deux grands côté Boston, donc ça peut être très dur à gérer.
Ouais, c'est clair.
Donc ça peut être un axe assez intéressant à exploiter pour les Celtics. Après, Jarrett Allen, normalement, revient dans la série, hein. C'est l'absence du Game 1 pour l'instant, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, et du coup, ouais, Porzingis in, j'ai vérifié l'article que j'ai lu tout à l'heure, c'est sur The Athletic, c'est il est bon pour le Game 1. Donc voilà.
Okay. Tant mieux alors.
Moi, écoute, j'ai envie que ce soit un peu plus disputé.
Ben, on a mais tous envie que ce soit disputé.
Parce que les Cavs, pour moi, méritent, après la saison qu'ils ont fait. Le premier tour a été malgré tout quand même intéressant, parce que même si tu perds 3 matchs, t'as quand même été dans le coup pendant les 7 matchs. Il n'y a pas vraiment eu de grosses désillusions. Alors, il y a eu... Il y a eu cette affiche entre deux grosses défenses, mais en fait, là, tu peux t'attaquer à une équipe plus forte et il faut que tu aies du répondant tout de suite. Et en même temps, on a envie de voir les Cavs confirmer déjà les playoffs qu'ils ont fait l'an passé. Et aussi, du coup, cette année, pour prendre un peu plus d'expérience, pour pouvoir compter sur cette équipe dans les années à venir. Je ne pense pas que ça batte les Celtics. Je vois quand même un cas. Oui, dis-moi.
En fait... Pour moi, je pense que tout le monde a à peu près conscience que Boston va gagner. C'est,
ah oui. Et,
voilà. Le vrai enjeu côté Cleveland, c'est qu'il ne faut pas se faire sweeper.
Apprentissage. Voilà. Apprentissage.
Il ne faut pas se faire sweeper, il faut montrer que tu te bats, il faut montrer que tu as faim, il faut montrer que tu peux tenir tête avec les jeunes talents que tu as, il faut montrer que tu peux tenir tête à une grosse équipe comme ça, au moins sur deux matchs, tu vois.
Un petit Celtics 106, un 4-2, ça m'irait bien.
Voilà. Et bah, en vrai, Cleveland, ils sortent avec les honneurs.
Ah oui, c'est clair. Et en fait,
face à la meilleure équipe de l'Est, c'est pas déconnant.
Voilà. En dehors de prendre deux matchs ou de ne pas en prendre, l'important c'est d'être présent dans le match et pas te faire de prendre des branlées et d'aller les titiller, d'aller chercher des prolongations si jamais tu perds, mais d'être présent en fait.
Ouais.
Que ce soit dans le jeu, dans le résultat ou même dans le contenu, comment les ajustements de JB Bickerstaff peuvent se faire aussi. Donc
malheureusement, ça c'est compliqué. Hein.
Bah oui, à des moments ça peut être assez linéaire et ça peut être aussi quelque chose qui peut pêcher côté Cleveland.
Ouais.
Donc victoire des Celtics, on attend des Cavs qui continuent d'apprendre et de se développer, mais je pense que ça sera trop court. En direction les finales de conf pour les Celtics, on est d'accord avec ça ?
Ah ouais,
on est d'accord. 4-2 Celtics. Et ce serait
4-2 Celtics
très bien.
Pour toi. Ok. Moi, j'ai un 4-1 Celtics parce que je pense que Cleveland va avoir trop de mal à voir le jour, mais il va y avoir un match où Donovan Mitchell va prendre peu. Et voilà.
Ok. Je vois. De l'autre côté du tableau, les Pacers qui ont sorti les Bucks, victoire 4-2 au premier tour. Ouais. L'absence de Giannis sur toute la série et de Lillard sur les deux derniers matchs aura été cruciale.
Il est là au dernier, je crois. Lillard, c'est que l'avant-dernier qu'il est pas là.
Lillard joue... Non, il joue pas le dernier, mec. Il est en tenue. Hein.
Il joue pas ?
Ah, je suis quasi sûr.
Si, il joue le dernier. Si, il joue.
Ah ouais ?
Il joue, ouais, il fait 28 points.
Ah bah, my bad.
28 points, 2 rebonds, 4 passes. Ouais.
Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est le game 5, c'est vrai. Exact.
Parce que game 4, il s'était fait une petite douleur au genou au second quart qui a fait peur un peu à tout le monde. Il était revenu au final seconde mi-temps, match un peu, on sentait qu'il était diminué quand même, qu'il avait une gêne, je pense que c'est pour ça qu'il était mis au repos, pour le game 5, et game 6 ça devait aller mieux, et vu que c'était un match winner go home, et bah, je pense qu'ils l'ont fait jouer quoi. D'ailleurs il y avait même des rumeurs comme quoi Giannis allait peut-être jouer ce game 6, au final il n'était pas en tête.
Bon, ça j'étais sûr que ça allait pas arriver, sinon il aurait joué plus tôt.
Ouais, je pense aussi. Mais du coup, trop compliqué pour les Bucks et série très bien gérée côté Indiana.
Ouais.
Y avait une stat super intéressante côté Indiana. Lorsqu'ils font un match en dessous des 25 passes d'ess, ils perdent le match. Ils font un match à 20 et un match à 24, je crois, qu'ils perdent. Et sinon, les autres, ils sont aux alentours des 30 passes d'ess. Et c'est là, en fait, que tu vois que le mouvement de ballon et tout, et en fait, ça fait gagner Indiana. Je vais pas dire facilement parce qu'il n'y a pas tellement eu de blowout, mais
sauf le dernier match.
Mais du coup, Indiana, en fait, lorsque le ballon il tourne bien et lorsqu'ils sont à l'aise, parce qu'en fait les Bucks défensivement ils ont pas réussi trop à mettre en difficulté Indiana, et ben derrière ça déroule et ça gagne. Voilà.
Bon, je pense que tu as bien résumé la série. Moi, j'avais pas vu le dernier match, donc du coup, je pense que c'est assez complet. Et du coup les Pacers qui de toute façon d'ailleurs mention spéciale quand même pour sur la globalité de la série, je vois que sur le dernier match il a pas été très performant, mais Miles Turner a fait un chantier de malade sur cette série. D'ailleurs
Miles Turner a fait un très très gros match sur le dernier match. Il était un peu compliqué pour lui parce qu'il a engendré beaucoup de fautes assez rapidement.
Ouais,
mais
sur la série il a été
très grosse série, ça shoot bien, ça protège bien l'arceau, il a contré pas mal de shoots. Ça gobe du rebond, non, vraiment, il a fait vraiment le boulot des deux côtés.
Parfait. Les Pacers qui donc affronteront en demi-finale les Knicks. Je vais parler un peu de ça. Les Knicks qui du coup ont sorti les Sixers 4-2.
Facile.
Comment ?
Facile.
Je dirais pas facile quand même. pas facile à digérer de pour ma part déjà de base. Non, en vrai la série était folle. Les matchs étaient disputés. Encore une fois, là, tu vois, sur le game 6, il a fallu un 3 points de Josh Hart ou une rotation a un peu décodé côté Sixers. Et en fait, c'est ça qui coûte la série parce que t'es un peu attentiste. Si tu te rappelles de la dernière possession, c'est tout le monde est focalisé sur Brunson qui a la balle, et en fait sur un vieil écran qui est à peine posé, il y a Batum et Kelly Oubre qui changent pas et qui communiquent pas, et Josh Hart se retrouve tout seul dagger, et on s'en sera jamais relevé. Le match 5 de Tyrese Maxey a été énorme.
Ah ouais, ce match a été
incroyable. Je me souviens de la combe avec Vincent et toi qui disiez que c'était déjà plié avant son action à 4 points, etc. Bref, le karma s'est chargé de lui.
En fait, ouais, moi je regarde le match et je vois qu'il y a 7 points d'écart, du coup avantage Knicks. Je pars pisser parce que je n'en pouvais plus. Et je reviens, je vois qu'il y a égalité, je fais quoi ?
À quel moment ?
Du coup, je reviens en arrière sur le match et je vois ce qui s'est passé. J'ai halluciné. Quoi. Trop par le Tigris.
Et moi, à ce moment-là, au Game 5, je me dis qu'on revient, en fait, et qu'on gagne le match à Philly, le match 6, et qu'on va jouer le Game 7 au...
Bah, t'as l'ascendant psychologique, entre guillemets, presque. Qu'un tel Game 5, quoi.
Parce que la qualif des Knicks, c'était dans leurs mains, en fait, à 7 points d'écart à 1 minute de la fin. Très compliqué pour revenir de ça, on a réussi, la prolongation s'est bien déroulée pour nous, mais au match 6, les Knicks ont été trop forts. Jalen Brunson fait une série de malades. Sur le dernier match, il en met 49, c'est ça, sur le dernier match.
Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Énorme, énorme série de Jalen Brunson. 35 points, 9 passes, très très bon. Il n'y a que les deux premiers matchs où c'est un peu compliqué pour lui, notamment pour les pourcentages au shoot. Mais sinon, c'est
41 points, 12 passes sur le game 6.
Ouais.
49, c'était au game 5. Donc, ouais, c'est monstrueux. Monstrueux. Mmh. Il a été énorme. Et nous, on s'est entêté à orienter notre attaque sur Embiid. Ça n'a pas payé à chaque match.
Et non,
là, on a vu nos problèmes de supporting cast avec Tobias Harris sur le game 6 qui met 0 points. Il a pris 2 tirs sur le match en jouant 29 minutes. Quand même.
Tobias Harris qui fait pas du tout une bonne série hein, à mes yeux.
Pas du tout. 9 points de moyenne, ça vaut pas 40 millions l'année, hein, on est d'accord.
Ouais, non, clairement, les responsabilités sont pas prises, les choix sont pas forcément les bons, ouais, c'est beaucoup de choses qui vont pas. Et je reviens vite fait sur Joel Embiid. Il fait quand même une bonne série, hein, malgré le fait qu'il était diminué. Hein, il avait du coup une paralysie faciale, là, je sais plus trop quoi, et puis ouais. Il avait également un problème à la jambe. Donc bon. Un peu du même style que Kawhi côté Clippers, encore une année où du coup tu vas pas plus loin en playoff parce que t'as un Joel Embiid qui est pas à 100%.
Ouais, mais au bout d'un moment,
c'est un peu chiant.
C'est juste chiant en fait, c'est qu'au bout d'un moment, si on cherche tout le temps des excuses, au bout d'un moment, c'est pas possible.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ce qui m'a un peu agacé avec Joel Embiid, c'est qu'à chaque fois qu'il a la balle au poste, en fait, il va pour chercher une faute. Et ça marche très bien en saison régulière, mais en playoff, les arbitres ont le coup de sifflet moins facile. Et tu peux pas avoir tes lancers à chaque action. Donc,
et encore, je trouve que.
Ça s'est trop senti, je trouve, sur cette série.
Je trouve que sur la série, malgré tout, il a quand même été bien nourri en termes de lancers francs.
Ah oui, il a quand même. Bah, ça s'est notamment noté, c'était quoi? C'était au game 3 où il shoot 21 lancers francs alors que les Knicks en shoot moins, je sais plus.
Il me semble, ouais, il y a une stat comme ça.
Au game 3, c'est quand il fait son 50 points et qu'il a fait la grosse faute sur.
Ah oui, sur Mitchell Robinson, c'est vrai.
Sur Mitchell Robinson, ouais.
Mais donc tu vois, il y a 13 lancés par match quand même. Sur la série, il y en a 13 par match.
Ouais, c'est énorme.
Après, Brunson en a 10, enfin en a 11. Donc bon, c'est un autre débat. Mais le problème a été que les Sixers n'ont pas réussi, encore une fois, à être bons dans le match qui comptait. Ils sont un peu sauvés le cul sur le match 5, mais c'était qu'une mascarade. Et en fait, la réalité, c'est qu'elle était au match 6 où en fait, bah, Laurie joue que 12 minutes parce qu'il se blesse. Tobias met pas un shoot. Kelly Oubre fait un bon match malgré tout. Nico, on a le réveil de Buddy Hield sur le match 6 alors que le gars a presque rien fait de toute la série. Non. Là, il envoie 20 points avec 6 sur 9 à 3 points.
Mais... au second quart, qui prend un peu chaud, qui envoie pas mal de shoots. Et tout.
Bah, sur la première mi-temps.
Beaucoup de bien.
Mais c'est trop juste en fait. C'est trop juste.
Non, c'est trop juste parce que derrière les Knicks ont été trop bons partout. On a un Josh Hart qui a été incroyable. Le mec finit meilleur rebondeur de son équipe. Ah, alors que c'est un guard.
Monstrueux. c'est un allié.
Avec 47 minutes de moyenne sur la série.
17 points.
Monstrueux. Et on a Ninobi aussi qui a un impact incroyable dans la rotation.
Ah bah oui.
Parce que défensivement, il apporte énormément. Et en fait, offensivement, bah, il est loin d'être déconnant. Il fait les bons choix. C'est pas le meilleur shooter, mais il fait les bons choix. Donc il sait quand est-ce qu'il doit aller au panier. Il sait quand est-ce qu'il doit la passer. Et ça, c'est parfait.
DiVincenzo a été précieux. Miles McBride, révélation de ce premier tour.
Ah ouais,
Hartenstein, en suppléant de Robinson, a été précieux aussi.
Ouais, enfin,
c'est... Il faut dire qu'en fait la meilleure équipe a gagné, c'est tout.
La meilleure équipe plus fort. En termes de talent collectif et en termes d'envie, on en avait parlé déjà plus tôt, mais l'envie des Knicks s'est fait ressentir parce que les mecs ils ont la rage, ils ont envie de gagner et ils avaient davantage envie que les Sixers, ça s'est ressenti.
Effectivement. Et puis c'est aussi à l'image de la saison des Knicks, mérité en fait.
Ouais, complètement.
T'es deuxième de conf et t'assumes ton rôle, donc c'est parfait. Rien. Exactement. Ouais, du coup, en demi-finale de conf, une preview sur Knicks-Pacers. Vas-y, Rémi, je t'écoute.
Ça lance les pronos, enfin la preview maintenant.
Ah bah ouais.
Moi, je pense que ça va. Enfin, encore une fois, de toute façon, demi-finale de conf, c'est toujours des séries intéressantes. La série va être vraiment top. C'est la série qu'on voulait tous parce que c'est les deux outsiders. Bon, les Knicks étaient favoris, mais au complet des
dernières années... Sur un faux set que sont les Sixers aussi.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc on a un peu les insiders qui passent et ça fait toujours plaisir, sachant que c'est des équipes qui sont un peu jeunes. Donc c'est très très cool, notamment côté Indiana. Je pense que la série va être extrêmement chouette parce qu'on a d'un côté des mecs qui se battent énormément et avec une très très bonne défense côté Knicks et une attaque, on l'a vu toute la saison, une attaque de folie côté Indiana et qui a, je trouve, réussi à mettre le bouton on pour la défense en playoff là. Donc je pense que moi je m'attends à une très très belle série et c'est peut-être la demi-finale de conf où j'ai le plus de mal à donner un avis tranché.
Moi, je pense que la défense des Knicks va faire la diff parce que même si les Pacers, comme tu l'as dit, ont fait un step-up en post-season sur cet aspect-là, je pense que les Knicks sont bien plus en place. Même si l'attaque des Pacers, je pense, est plus dangereuse que celle des Knicks.
Ouais, mais je te rejoins dans le fait que je pense que dans le jeu d'Indiana, il y a plus de lacunes qu'il y en a côté
Ouais.
Knicks.
Et tu t'es trop dépendant de comment tu. Bah, t'as réussi ton tir. Il y a
Côté
trop de.
Indiana, moi je pense que tu es trop dépendant de ton mouvement de ballon. Je parlais tout à l'heure de la stat au
Ouais.
niveau des passes décisives. Je pense que l'axe primordial côté Knicks, c'est de limiter le mouvement de ballon côté Indiana pour les empêcher d'avoir toutes ces.
Toutes ces extra passes dans les
Ouais,
corners.
c'est ça,
Ouais, non, mais c'est sûr.
exactement. Un peu obligé, pourquoi pas des iso, notamment Tyrese Haliburton
Siakam.
qui peut foutre des points, hein, Siakam, Haliburton qui peut foutre des points en iso, mais ça va être juste au bout d'un moment et ça ils pourront que le payer cher, donc c'est je pense que c'est aux Knicks d'accentuer là-dessus pour limiter le mouvement de balle d'Indiana.
Plutôt d'accord avec ça. Et puis surtout, je pense que au vu des deux premiers tours, les Knicks ont un plein de confiance malgré tout. Les Bucks étaient beaucoup moins forts
Ah
que les
les
Sixers,
deux
en tout cas sur les deux confrontations.
Les deux équipes, je pense qu'ils sont à confiance max là.
Ah, je dis pas que les Pacers ne le sont pas, mais je trouve que l'adversité était plus difficile pour les Knicks et je pense que tu vas être beaucoup plus prêt à entamer cette demi-finale. Là où les Bucks étaient vraiment diminués parce que Giannis ne jouait pas du tout. Et que tu as Lillard qui a été absent sur le Game 5. Donc,
Ouais, je te rejoins, mais
même si les Pacers, fallait les gagner les matchs, hein, quand tu as Chris
ouais, fallait la
Middleton qui fait
prendre,
des
hein.
séries comme ça, c'est pas facile.
Ouais.
Mais je sais pas, je pense qu'il y a eu plus d'adversité, tu vois. Genre, les Sixers ont posé plus de problèmes aux Knicks, j'ai l'impression.
Ouais, c'est possible. C'est possible en effet, mais je pense qu'en termes de confiance, les deux équipes sont à 2000%, là. Parce qu'on a bien vu que côté Indiana, ils avaient faim aussi, hein, qu'ils avaient envie, hein.
Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et c'est bien d'ailleurs d'avoir cette rencontre, cette confrontation-là avec deux équipes jeunes qui ont vraiment la dalle de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et ils vont tout faire pour rejoindre les Celtics en finale de conf. Parce que bah on y va un peu tout droit. Hein. C'est les Celtics contre l'une de ces deux équipes.
Oui,
Est-ce que tu as un petit
c'est.
pronostic à me faire?
Bah, de toute façon, on est là pour ça. Moi, mon pronostic, je vais balancer un 4-2 pour New York. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a moins de lacunes côté New York. Je pense qu'ils sont plus complets défensivement. Ils sont. Clairement, ils sont rodés. Hein. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout. Je pense que ça va. Ils vont quand même perdre des matchs parce qu'il y a des soirs où en fait, le ballon va rentrer trop facilement côté Indiana parce qu'il y a des soirs comme ça où c'est compliqué. Mais dans l'ensemble, je pense que les Knicks sont une meilleure équipe et qu'ils ont les armes pour maintenir Indiana en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Voilà.
J'aurais envie d'aller sur un game 7,
Ok.
mais en même temps, je veux pas trop donner. En fait, le 4-2 aurait été mon pronostic aussi. J'ai pas envie de donner la même chose que toi. Vas-y, en vrai, grosse série de
Alors, c'est un
Tyrese
Game 7.
Haliburton offensivement et game 7, victoire des Knicks, 4-3.
Un Game 7 au TD Garden avec Tyrese Haliburton qui regarde Spike Lee et qui se.
Au Madison Square Garden, pas au TD Garden.
Oh, Madison, ouais, my bad. On a parlé de Boston juste avant, j'ai confondu. Un Game 7 au Madison Square Garden et ouais, Tyrese Haliburton qui plante un gros 3 points en regardant Spike Lee dans les yeux là. Ah, oh, ça me ferait kiffer. J'espère que c'est Reggie qui va commenter les matchs.
Bah, je sais pas du tout d'ailleurs qui bah du coup côté Indiana ce sera certainement Reggie
Ouais, côté
mais
Madison, non, sans doute pas.
sans doute pas. Mais ouais, Game 7, victoire des Knicks.
Magnifique série et puis belle confrontation quoi, ça fait
Ah bah ouais, ça fait
25 ans qu'on
plaisir.
n'a pas vu cette série en playoff et c'est très très chouette.
Ouais, et puis surtout, ça fait du bien. Et moi, je trouve que c'est cette année, au final, où que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, c'est que les équipes méritantes qui ont été constantes sur toute la saison régulière. T'as pas une équipe qui arrive et qui, parce que le talent fait qu'elle passe des équipes qui valent, enfin qui méritent leur place en demi-finale, quoi. Et du
C'est
coup,
les talents
ça
collectifs
j'aime
plus que les
beaucoup.
talents
C'est
individuels.
ça. J'aime beaucoup.
Ouais, je
J'aime
suis tout
beaucoup.
à fait d'accord avec toi. Et on a que des jeunes de partout, c'est trop bien. Les Knicks, ils sont une équipe, bon, ils ont été en playoff l'année dernière, ils ont fait une très belle saison Enfin, ils ont fait plusieurs belles saisons là sur les dernières saisons, mais ouais. Je veux dire, ils avaient vraiment jamais les armes pour aller loin. Cette année, ils l'ont. Ils ont vraiment une équipe qui peut vraiment aller loin. Indiana, ils n'ont pas passé un tour de playoff depuis bien 10 ans maintenant, j'ai plus la date. Mais ça fait un moment, ils ont une belle équipe aussi, c'est une chouette confrontation.
Ouais, voilà. je suis d'accord. Du coup, finale de conf, Celtics, Knicks. Pas de pronostic, on verra sur comment évoluent les séries, effectivement. C'est ouais. Bon pour nous ?
Ouais, c'est bon pour moi.
Allez, parfait. C'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, @WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA. Ciao.
Bon playoff tout le monde. Tchuss.